Philippe, métaphysique à Fribourg, le 17 mai 83, troisième cours.
Nous allons continuer la petite réflexion de ce matin. Savoir exactement ce qui n'est pas comme du reste. Parce que ce sont des choses qu'on ne voit jamais et qui sont quand même importantes à réfléchir. Dans un acte de foi, donc, je me place dans une perspective critique, vous voyez, pour essayer de comprendre ce que représente exactement ce point de vue de l'expérience mystique au niveau naturel, qui est le sommet de toute la philosophie néo-platonicienne quand on regarde chez Platon. Donc c'est un problème philosophique, c'est bien évident. Il faut comprendre Platon, Platon fait partie du programme. Et comprendre Plotin, c'est nécessairement aller jusqu'à ce qu'il dit le sigé, le silence. Au-delà de la contemplation, il y a le silence. Au-delà de la contemplation, il y a l'énosis. Il y a l'unité entre celui qui est Plotin, parce que c'est bien Plotin qui parle, je crois, c'est pas le nous. C'est Plotin qui a le nous et qui est uni à l'homme. Alors cet énosis, vous voyez, c'est très curieux, je dirais, c'est énosis, c'est comme si l'un attire pour réaliser l'un. La bonté en attirant fait l'amour, réalise l'amour dans notre cœur, et l'un, quand il attire, il fait l'unité. Et nous, c'est la participation de l'un au plus intime. Je crois que c'est important du réseau souligné. C'est l'effet de l'un au plus intime du nous. Quand le nous, quand l'intelligence est en appétit de l'un, l'un réalise l'énosis. C'est-à-dire qu'il réalise l'unité. Une unité, il ne dit pas une unité d'amour, hein, il dit l'unité tout simplement. Alors, c'est donc un problème philosophique, parce que ça se voit à l'intérieur de la philosophie de Platon. Et si je ne regarde pas cela, je ne comprends rien à la philosophie de Platon. Puisque c'est toujours par le sommet qu'on comprend toute une philosophie. Tant qu'on n'a pas été jusqu'en haut, on ne comprend pas. Tant qu'on n'a pas compris ce que c'était que la théorie, la contemplation, on ne peut pas comprendre la philosophie aristotélicienne. On comprend les premiers. C'est comme ça. Toute chose. Quand on a une vue panoramique, il faut s'élever le plus haut possible pour saisir tout le reste. Et chaque philosophie se comprend toujours par le sommet. Le point de départ, c'est très important, mais ce n'est pas le point de départ qui me fait comprendre une philosophie. Le point de départ, c'est l'expérience, ce n'est pas ça qui me fait comprendre une philosophie. Il faut comprendre que le point de départ, c'est l'expérience, mais que l'expérience me conduit à autre chose. L'expérience me conduit à une analyse philosophique et à une contemplation. De l'expérience à la contemplation. Alors, cela, j'ai tout l'itinéraire. Alors, je me posais la question, puisqu'il s'agit de comprendre ce que représente l'expérience mystique poussée jusqu'au bout, dans la perspective plotinienne, et comprendre est-ce qu'il y a vraiment un toucher de l'intelligence vis-à-vis de Dieu. Ou est-ce que c'est tout simplement l'attitude religieuse poussée jusqu'au bout. Vous voyez, l'attitude religieuse qui va, une attitude méta-religieuse. Une attitude méta-religieuse, c'est-à-dire au-delà de l'adoration, une méta-adoration, si vous voulez, qui serait justement cette énosis. Au fond, c'est une méta-adoration. L'adoration n'implique pas le concept, cette attitude affective, qui nous remet en dépendance à l'égard de l'être premier.
Qu'est-elle par rapport à la contemplation?
Pour Platon, c'est un au-delà de la contemplation. Parce que la contemplation demeure, vous voyez, avec un concept, pour Platon. Or, le concept implique une diade. Tout concept, toute connaissance implique une diade, objet et sujet. Si ça implique objet et sujet, ça ne peut pas être dérivé. Il faut donc le dépassement de la contemplation pour arriver à l'énosis. Vous voyez ? Alors, c'est difficile à comprendre, puisque on ne peut pas comprendre. Par définition, on ne comprend plus. Puisque que par définition, c'est au-delà de la compréhension. Et on voit, c'est pour ça que je dis que c'est comme une méta-adoration. C'est l'adoration du nous. Et le nous, quand il est actif, n'adore pas. Il est actif. Donc il réalise quelque chose, il a un fruit. Et ce fruit, c'est sa conception. Alors est-ce qu'on ne faut pas le concevoir comme une méta-adoration très intérieure, cette adoration qui consiste justement à se laisser attirer par l'un. L'un qui est le bien aussi, mais qui est l'un. De sorte que le fruit de l'un, c'est de nous attirer dans son unité pour nous mettre dans son unité. Et là, c'est l'énosis. Bon, je crois que dans la perspective de Plotin, si je comprends bien cette perspective-là, vous voyez, il n'y a plus au sens rigoureux de jugement d'existence, puisqu'il y a un dépassement. Donc c'est uniquement une présence. Et donc c'est affectif. Je crois que c'est affectif, exactement comme l'adoration. C'est affectif, c'est quelque chose d'un méta-affectif, si vous voulez. Quand on est méta, ça va très bien. N'est-ce pas, ça fait quelque chose de plus sérieux. Alors c'était méta-affectif qui fait quelque chose qui va plus loin, qui va le plus loin possible dans cet abîme de l'âme. Bon. Je m'étais posé cette question. Maintenant, je me pose la question par rapport à Bergson. Je suis encore en philosophie. C'est pour bien vous montrer que la philosophie doit aller jusque-là. Si la philosophie ne va pas jusque-là, il y a des tas de choses qui laissent tomber. Ça, c'est les sommets, évidemment, de la philosophie. Mais c'est quelquefois très bon de voir les sommets de la philosophie pour comprendre tout le reste. Hein. Parce que quand vous restez indéfiniment sur l'analyse, vous dites, mais pourquoi tout ça? Eh bien, cette analyse, toutes les analyses sont commandées par le sommet. Il y a Bergson, les fameuses pages de Bergson, qui sont des pages classiques et qui sont des pages intéressantes, les deux sources de la morale, quand Bergson arrive à dire qu'au fond, l'homme n'est parfaitement homme dans son développement que dans son attitude mystique. Il prend les grands exemples auprès du chrétien. Jean de la Croix et surtout Thérèse Avila. Parce que Thérèse Avila a pour Bergson un immense avantage, c'est qu'elle a fait quelque chose. On dit que Saint Jean de la Croix n'a pas fait grand chose. Enfin, pour Thérèse Avila, il est bien. Et il a fait grand content. C'est pas grand chose. Tandis que pour Bergson, ce qui est intéressant, c'est de voir que le contemplatif est souverainement actif. Parce que par là, il y a quelque chose qu'on voit et qu'on peut juger. Alors il juge, il faut bien voir ça. En philosophe, je comprends. Au point de vue chrétien, ce serait effrayant. Mais au point de vue philosophique, je comprends. C'est que le philosophe se mettant de l'extérieur ne peut pas saisir s'il y a contemplation authentique ou pas authentique. C'est une opinion pour lui. Donc il peut juger que si elle est authentique ou pas authentique en fonction des faits, en fonction des résultats. Un contemplatif qui est souverainement actif, c'est sûrement un grand contemplatif. Un contemplatif qui meurt en prison, ou un contemplatif qui ne fait rien du tout, et qui ne fait que contempler, le philosophe, il comprend rien. Est-ce que c'est une momie avant l'heure, ou est-ce que c'est une momie éternelle? Je n'en sais rien. Le pur philosophe ne peut pas dire autre chose. Il ne peut pas sonder, voir si la momie vit encore, ou bien si elle ne vit plus. C'est tout, il ne peut pas dire plus. Hein. Alors, Le philosophe regarde de l'extérieur, forcément, puisque lui-même, s'il contemplait en tant que philosophe, il pourrait, mais comme cette contemplation est une contemplation de foi, il ne peut pas la regarder autrement. Alors, je m'étais dit, hein, puisque nous essayons de comprendre, est-ce que la contemplation mystique va permettre une expérience avec un jugement d'existence à l'égard de Dieu ? Très important, et je crois pas que ça a été traité de cette manière-là, parce que le jugement d'existence, hélas, c'est très entre parenthèses, et alors on l'a pas beaucoup traité comme ça. Et c'est intéressant à voir. Alors, je m'étais dit, prenons le point de départ de la contemplation mystique. Le point de départ de la contemplation mystique, tous les mystiques chrétiens le disent, c'est la foi. Or, dans la foi, il y a coopération entre le nous, donc l'intelligence, et la foi. Je ne peux pas faire un acte de foi sans que mon intelligence soit engagée dedans. comprendre ça. C'est pour ça que si mon intelligence est dévoyée, c'est-à-dire si mon intelligence est dialectisée par n'importe quelle espèce de dialectique, j'ai beaucoup de peine à faire un acte de foi. Parce que l'acte de foi n'est pas dialectique. C'est dit expressément, vous savez bien, dans l'évangile de Saint Jean. C'est notre Seigneur qui dit ça à Nicodème, devant la dialectique de Nicodème, qu'on comprend très très bien. Et il fait comprendre ce que c'est que l'acte de foi. L'acte de foi, c'est celui qui entend la voix du vent, mais ne sait pas d'où il vient ni où il va. Or, le dialecticien sait très bien d'où il vient et où il va. C'est le propre de la dialectique. Tandis que le propre du croyant, il est suspendu à la manière, vous voyez, d'une chauve-souris. Il est suspendu, il ne voit rien à cette chauve-souris. C'est extraordinaire de voir comment une chauve-souris est suspendue et comment elle dort. Regardez ça, c'est très très beau. Alors, il est suspendu de cette manière-là et il ne voit, pas, c'est sûr. Il est pris, il n'est plus dans la dialectique, point de départ et le terme. Mais il sait très bien, en tant que croyant, que la foi est reçue dans l'intelligence. Et donc tout acte de foi implique nécessairement une coopération de l'intelligence. Alors, c'est là où je me pose la question, la foi implique un jugement d'existence qui porte sur Dieu me parlant, Dieu qui me révèle, Dieu créateur et Dieu père. Dieu qui me parle. Donc il y a un jugement d'existence. Hein. Celui qui dirait qu'il n'y a pas de jugement d'existence dans la foi, ben alors c'est plus la foi. Il vit dans les idéologies. La foi est réaliste. C'est bien évident. La foi est réaliste. Elle est réaliste parce qu'elle touche une réalité qui est la réalité, qui est res, comme dit saint Augustin. Qui est le créateur et le père. Donc la foi implique ce jugement d'existence. Ce jugement d'existence se fait par la foi avec le concours de l'intelligence. Est-ce que l'intelligence va, en raison de ce jugement d'existence, avoir un nouveau jugement d'existence? Oui. Autrement dit, est-ce que l'intelligence qui coopère, notre intelligence humaine, qui coopère avec la foi, va-t-elle, grâce à la foi, acquérir dans sa fine pointe d'intelligence quelque chose de nouveau, puisque la grâce perfectionne la nature. La foi perfectionne l'intelligence. Hein? Je peux dire ça. Et donc, est-ce qu'il va y avoir ce jugement d'existence? Va-t-il avoir une répercussion, une retombée atomique, une espèce de, sur le point de vue de l'intelligence. C'est que l'intelligence, alors, dans sa fine pointe, va connaître quelque chose de nouveau, un jugement d'existence qu'elle ne connaissait pas avant. C'est-à-dire toucher Dieu. Très difficile. Vous êtes tous croyants, moi je vous dis, et vous êtes tous intelligents. Et alors, est-ce que votre intelligence, par la foi, va-t-elle y avoir ce toucher, cette fine pointe de l'intelligence qui va toucher quelque chose? Le mystère de Dieu, j'adhère à Dieu qui existe, donc j'adhère à une réalité, j'ai un réalisme dans la foi merveilleux. Alors, voyez tout de suite ce que je peux dire. C'est qu'il y a des croyants qui sont croyants, de vrais croyants, et qui ne sont pas réalistes du tout dans leur intelligence. C'est un fait. On en rencontre tout le temps. Même parmi les théologiens. On rencontre des croyants, ils sont croyants, mais leur intelligence n'est pas réaliste à cause de ça. Alors, ça prouve que, de fait, ce jugement d'existence du croyant ne passe pas le mur du son. C'est-à-dire que mon intelligence ne touche pas l'existé de Dieu. Si je touchais l'existé de Dieu, mais je serais réaliste, impossible autrement. Et une fois que j'aurai la vision béatifique, hein, on sera tous réalistes. Il n'y a pas de problème, là, c'est ça, tous. Parce qu'on verra que la réalité, c'est Dieu, et puis que c'est tout le reste, c'est ça qui est intéressant. Tous les possibles, c'est secondaire. L'imaginaire, c'est secondaire. Toutes les idéologies, c'est secondaire. Mais au fond, ce qui est intéressant, c'est de toucher la réalité. Parce que c'est la seule chose qui est vraiment directement en relation de Dieu. Or, c'est un fait, hein, je parle de ça. C'est un fait, je constate que les quantités de croyants, même s'ils sont croyants, même s'ils sont une foi très généreuse, gardent dans leur esprit, dans leur intelligence, des tas de choses qui peuvent être faussées. Et ne sont pas, à partir de là, nécessairement réalistes en disant oui, c'est vrai, l'intelligence est de ça. C'est un fait, je constate, je vois ça. Je suis bien obligé de le reconnaître. Donc, je suis désolé de le reconnaître, mais c'est un fait. J'ai dit d'autre part, que la grâce ne change pas le conditionnement de l'intelligence. La grâce ne me donne pas de nouveaux concepts. Alors, au fond, l'intelligence sert de quoi? Elle sert de support. C'est pas l'intelligence qui donne le caractère spécifique de l'acte de foi. Or, le jugement d'existence, c'est le caractère spécifique de l'acte de foi. Je touche la réalité divine qui se révèle à moi. C'est ça le caractère spécifique de l'acte de foi. Donc l'intelligence sert uniquement à un support, d'un support vital, c'est très important, ça c'est sûr. J'ai une opération vitale, mais mon opération vitale est matérielle vis-à-vis de la foi. La foi détermine mon intelligence pour lui permettre d'accéder à Dieu et de s'ouvrir au mystère de Dieu. Mais mon intelligence reste le support matériel. Vous voyez, au fond, la nature, elle est transformée par la grâce, mais elle est comme ce qui est antérieur à la grâce, ce qui est le support, le sujet. Et il n'est pas transformé pour ça. Il faut du temps avant que le levain transforme la pâte. Le levain, c'est la foi. La pâte, c'est l'intelligence humaine. Hein. Si brillante qu'elle soit, elle reste la pâte. Elle reste la cause matérielle. Elle reste le sujet à laquelle s'inhère la foi. Mais la foi a par elle-même son propre objet. Je sais très bien qu'il y a des théories théologiques sur Arès. Je me suis rappelé sur Arès. Sur Arès qui lui dit que la foi n'apporte pas un nouvel objet. Alors à ce moment-là, vous voyez, quelqu'un qui est idéaliste, quelqu'un qui est dans la dialectique, est-ce que la foi peut exister? Si ce n'est pas la foi qui donne l'objet, qui donne la détermination de mon acte de foi, de mon intelligence, pour Suarez, la foi ne fait que modifier l'exercice. Mais elle ne me donne pas un nouvel objet. Alors vous voyez cette chose terrible. Hein? Si mon intelligence est faussée, il n'y a plus de foi. Ma foi est faussée. Tandis que je peux très bien lire. Il y a des gens qui pensent très mal et qui croient très bien. Ça arrive, c'est bien évident. On en rencontrera beaucoup dans sa vie. Il y a des gens qui pensent très mal. Ils ne savent pas penser du tout. Je ne parle pas uniquement de la logique. Hein. Je parle tout simplement de penser, de comprendre les choses. Et puis qui sont des chrétiens qui tiennent la foi. C'est très curieux ça. C'est pas parce qu'on a la foi qu'on se met à être intelligent. Non. Et c'est pas parce qu'on est intelligent qu'on a sûrement la foi. Il y a deux choses différentes, c'est très curieux. C'est pour ça qu'on dira que la foi n'est pas une vertu intellectuelle. C'est pas une vertu intellectuelle. C'est autre chose, c'est un apport divin, c'est pas une vertu intellectuelle. Mon intelligence, eh bien, c'est moi-même qui suis responsable du perfectionnement de mon intelligence. Donc elle est vraiment cause matérielle. Elle est le sujet du côté vital, du côté de l'exercice vital, mais l'intelligence ne touche pas et c'est ça qui est très extraordinaire, elle ne touche pas par elle-même et en elle-même, si ce n'est par la foi, l'existence de Dieu. Donc, le jugement d'existence est comme suspendu pour que l'intelligence soit uniquement au service de la foi. Il n'y a qu'un seul jugement d'existence, celui de la foi. Je crois que ça, nous pouvons tous le comprendre. Mais c'est très important, ça, c'est très très important, parce que si je comprends ça, quand il s'agit de la contemplation mystique, quand il s'agit de l'expérience mystique, puisque l'expérience mystique se fait toujours à l'intérieur de la foi, j'ai donc exactement la même chose. L'expérience mystique n'apporte rien à mon intelligence humaine. Je ne peux pas juger, je veux dire immédiatement, hein, immédiatement, l'expérience mystique apportera à mon intelligence humaine ce fait que normalement, quand il y a une véritable expérience mystique, je désire être parfaitement docile à la volonté de Dieu. Et Dieu me fait comprendre que je dois avoir un amour de la vérité. Et si j'ai cet amour de la vérité, je suis beaucoup plus attentif au cours de philosophie que si je n'avais pas, d'expérience mystique. Donc, je suis beaucoup plus attentif. Donc, indirectement, l'expérience mystique me permet d'être plus intelligent. Indirectement. Parce que l'expérience mystique supprime ma paresse congénitale. Ça oui, ça supprime ma paresse congénitale. Dès que je ne comprends pas, je commence à dormir en me disant c'est plus facile. Voilà. C'est vrai, ça, il faut le reconnaître. Surtout après le repas, parce que je l'expérience mystique fait qu'on est plus avide de connaître et on fait tous les efforts qu'il faut pour que notre intelligence humaine recherche la vérité. En sachant très bien que cette recherche de la vérité n'apporte pas directement et immédiatement quelque chose à la foi. Ce n'est pas parce que je suis métaphysicien ou que j'aime la métaphysique et que je veux de la métaphysique que je vais être plus croyant. Non. Je souhaite que dans une intelligence qui s'est purifiée par la métaphysique, la foi soit plus lumineuse, je le souhaite. Et c'est très beau de voir, mais ce n'est pas ça qu'il faut directement. C'est sûr, c'est pas direct. Donc, l'expérience mystique n'apporte pas directement une expérience de Dieu à mon intelligence humaine. L'expérience mystique en elle-même me donne un contact de Dieu, en elle-même, comme expérience mystique, mais qui ne descend pas au niveau de mon esprit humain. C'est très curieux, ça. C'est très, très curieux. C'est vraiment très, très mystérieux de voir ça. Du côté affectif, oui. Du côté affectif, vous voyez, c'est-à-dire du côté de l'amour, il y a une continuité. Mon cœur est touché par ma charité, mais mon intelligence n'est pas atteinte par moi. C'est curieux. Mon cœur est touché. Ça, je suis bien obligé de le reconnaître. Je veux dire, l'expérience mystique n'a rien à voir avec ma volonté humaine, ma capacité de ne pas vivre. L'expérience mystique a directement un lien sur mon cœur humain et transforme mon cœur humain. Mais l'expérience mystique ne touche pas directement, immédiatement mon intelligence humaine. Ça, c'est propre du mystère de la foi. Vous voyez, là, il y a quelque chose, je crois, très important pour le problème que nous posons. Oui.
Est-ce par là aussi qu'on peut voir la nécessité de maintenir la métaphysique pour attribuer l'existence de Dieu?
Oui, sûrement. C'est-à-dire l'Église maintient la métaphysique et nous dit qu'il faut une recherche métaphysique pour purifier le sujet. Parce qu'il est évident que si mon intelligence humaine, enfin, elle n'est pas transformée immédiatement, mais si mon intelligence humaine est viciée par une démarche dialectique athée, c'est toujours la conversion d'un athée, c'est toujours très frappant à voir ça. On a tous vu ça. Des intellectuels, hein. Des intellectuels qui savent ce que c'est, qui ont baigné dans la dialectique marxiste, par exemple, ou qui ont baigné dans la dialectique positiviste, mais qui sont convertis, ils sentent très très fort le hiatus entre nous. Ils sentent très fort. Ils sentent très fort qu'ils ont un langage marxiste et que ce langage marxiste ne correspond pas à l'expérience intérieure qu'ils ont, qui est une expérience de Dieu. Et ils sentent très bien aussi que l'expérience qu'ils ont de Dieu ne va pas immédiatement corriger leur marxisme et qu'il faudra quand même lutter contre. Je vous ai toujours cité cet exemple d'un jeune dominicain que j'avais connu au Sochoir, et ça m'a beaucoup frappé. Ça. Il était de la classe sous-prolétaire, comme on disait. Son grand-père était marxiste, son père était marxiste. Et lui-même était marxiste. Comme il était très intelligent, on lui avait donné une bourse, il était venu à Paris pour faire une licence de géographie humaine. Puis là, un beau jour, rentrant le soir dans sa petite chambre, il s'est mis à genoux. Première fois dans sa vie. Demander ça à un curé, mais les curés, c'était effrayant. Il a découvert un couvent de cartes à Fontainebleau, à Avon. Lui, il est allé là voir. Puis alors, il a dit ce qui s'était passé. Puis il a reçu une instruction. Après, il a accepté tout. Mais son intelligence était marxiste. Et alors, comme c'est très amusant comme il avait eu comme professeur Lefebvre, qui était un marxiste très intelligent, et que Lefebvre avait dit il n'y a que deux métaphysiques possibles, la métaphysique marxiste et celle de Thomas d'Aquin. C'est amusant. Il y a deux marxistes, deux métaphysiques possibles, ou celle de Thomas d'Aquin ou celle de Marx. Le reste c'est la lubine. Tout le reste c'est bourgeois. Oui, c'est bourgeois. Tandis que là, il y a des métaphysiques, il y a des choses. C'est vrai, Descartes, c'est bourgeois, c'est sûr, parce que c'est l'idéalisme. Tandis que là, il y a le réalisme, donc on doit pouvoir s'entendre. Vous savez, du reste, ça, il y a tout le temps des trucs comme ça, vous voyez, les deux aspects qui peuvent s'entendre. Alors, il s'est dit, puisque maintenant je suis converti, et je dois me faire dominicain pour savoir ce que c'est que Thomas d'Aquin. Oui, c'est la logique du converti. Et alors, en effet, il s'est fait dominicain et je l'ai eu comme étudiant. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a raconté cette histoire. Vous voyez, et il est venu comme ça. Mais comme je faisais le cours de première année à ce moment-là au Sochoir, ça m'intéressait de voir un peu comment les intelligences se déliaient petit à petit à la philosophie. C'était intéressant. Et puis, je m'étais aperçu qu'il y en avait un, évidemment, je ne connaissais pas, qui était tout à fait particulier. 15 jours, elle est venue me voir en me disant sans doute vous savez qui je suis. J'ai dit non. Ah, vous n'avez pas des fiches. J'ai dit non, je n'ai pas de fiches. J'aime mieux vous découvrir. Je pourrais en avoir, mais ça ne m'intéresse pas. J'aime beaucoup mieux vous découvrir. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est bien. Ah, il est pas de... Alors, il m'a raconté, il m'a dit j'ai mon cœur qui est chrétien et mon intelligence est marxiste. C'est très étonnant, parce qu'il voyait ça avec une très grande lucidité, c'était merveilleux. J'ai mon cœur, le Christ a converti mon cœur, et le Christ m'a laissé le soin de convertir mon intelligence. J'ai retenu la formule, parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est tout le temps comme ça. Dieu convertit notre cœur, mais nous laisse le soin de convertir notre intelligence. Dieu ne convertit pas notre intelligence. Non, 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 non. Vous avez tant de bêtises ici. Dieu ne convertit pas. Il nous laisse le soin de convertir notre intelligence. Ça, c'est très vrai. Si vous attendez en disant mais Dieu ne peut qu'à convertir mon intelligence. Non, non. Il convertit notre cœur. Ça, c'est vrai. Dieu seul convertit notre cœur. C'est lui qui fait la conversion du cœur. Mais notre intelligence, il nous laisse le soin de la convertir. Et alors, il a eu cette chose étonnante. C'était très beau. Il m'a dit, puisqu'il avait fait du jeu pour 3 ans,
Il m'a dit, si dans 3 ans, je n'arrive pas à entrer dans la métaphysique de saint Thomas, je n'ai plus qu'une seule chose à faire, c'est de retourner dans le monde. Je serai ouvrier silencieux pour le Christ. Parce que je saurais que mon intelligence est marxiste. Donc je ne pourrais pas parler. Parce que si je dis quelque chose, je ferai de la propagande. Alors je ne veux pas faire de la propagande, je veux rester au Christ. Alors c'est possible que mon intelligence soit faussée pour toute sa vie. Alors j'ai dit non, je vais rassurer. Je lui ai dit, vous comprenez quelque chose? Oui, il m'a dit, je comprends quelque chose. Mais si, il faut que je... Alors, vous comprenez, quand je faisais cours, il était toujours loin de moi, c'était pour lui que je faisais cours. Ça m'intéressait beaucoup plus que tout le reste. Et puis il venait de temps en temps, avec sa Bible, c'était Lénine, c'était cette Bible. Et il me montrait tout le temps, il me dit, qu'est-ce que vous dites là-dessus? C'était la discussion pour arriver petit à petit à convertir son intelligence, à faire son intelligence dialectisée, relier une intelligence réaliste. C'est très beau ça. Et ça m'a beaucoup frappé, parce que c'est très rare qu'on voit des cas aussi nets. Le cœur converti de façon telle. Et quand sa mère venait le voir, elle venait le voir exactement comme quand on allait, quand on va en prison, voir quelqu'un qui est en prison. Exactement comme ça. Et elle ne regardait personne. C'était son fils qu'elle voulait, c'est tout. Il était dans le milieu droit, c'était curieux. Elle demandait qu'il y avait des microbes qui avaient une particulière, comme les infirmiers et infirmières. Donc elle le prenait comme ça. Mais elle ne regardait personne, c'était son fils qu'elle voyait. Mais alors quand il a décidé vraiment d'entrer, il était dans sa paroisse, pour dire bonjour à son père, c'est la première fois qu'il se servit de faire bonjour à son père. Et son maître de la vicaire qui partait, qui lui entrait dans le marxisme. Le chemin inverse. Alors, il lui a dit, je te souhaite qu'un jour tu sois secoué comme j'étais secoué. À ce moment-là, tu comprendras. Parce que sans doute que ton cœur n'est pas à Dieu. Lui pouvait dire. Il avait l'expérience. Tu as été séduit par le marxisme. Fais attention. C'est joli comme chose. Hein. Et je crois que c'est très vrai. Oui, ça corrobore ça. C'est que notre intelligence n'est pas modifiée par la grâce. C'est très très clair. Ça, alors là, vraiment, on touche quelque chose qui est très très important pour nous. Philosophiquement, c'est très très important de comprendre ça. Si on est chrétien, c'est très important de comprendre que notre intelligence n'est pas modifiée par la grâce. Elle n'est pas modifiée directement par notre foi. Mais notre cœur, oui. C'est toujours la question. L'amour est beaucoup plus immédiat. Hein. On est beaucoup plus immédiatement unis à Dieu par l'amour que par l'intelligence. C'est comme ça qu'il faut toujours faire le contour de l'amour d'amitié par l'amour qu'on convertit les autres. Si vous heurtez entre deux philosophies, ils vous prendront toujours comme des dialectiques, et alors on pourra discuter indéfiniment. Tandis que si vous convertissez le cœur, à ce moment-là, il y a quelque chose qui passe. Et vous pourrez ensuite essayer. Et ça, tout ça se tient de cette manière-là. Donc vous voyez, ceci, c'est pour vous montrer que il n'y a pas possibilité d'avoir comme point de départ de la philosophie l'expérience mystique ou l'expérience religieuse. Parce que l'une et l'autre ne nous donnent pas un jugement d'existence par rapport à Dieu. Ça, alors je crois qu'il faut le saisir avec netteté. C'est intéressant parce que ça nous fait comprendre que c'est très vrai. La voie d'accès à la philosophie n'est pas, vous voyez, l'attitude religieuse, n'est pas l'attitude mystique. Le philosophe reconnaît la place de l'attitude religieuse comme fondamentale et capitale du côté du cœur, mais n'est pas première du côté de l'intelligence. Et on voit bien les deux voies d'accès tout à fait différentes. La voie d'intériorité par l'amour et la voie de l'intelligence, du réalisme de l'intelligence. Les deux choses ne s'opposent pas, il n'y a pas d'opposition entre les deux, mais il y a deux voies différentes. Et il faut que les deux voies, de temps en temps, puissent se rejoindre, vous voyez ? les deux voies puissent se rejoindre, qu'il n'y ait pas de qu'on n'oppose pas intelligence et amour, et qu'on distingue les deux. Et qu'on voit que le rythme de l'amour n'est pas le même que le rythme de l'intelligence. Et qu'il y a quelque chose d'immédiat du côté de la charité par rapport à la volonté, il y a quelque chose de médiat, pas immédiat, de la foi par rapport à l'intelligence. Alors, ceci étant dit, nous fermons la grande parenthèse. Hein. Mais c'est bien, c'est bien. Nous avons donc, la dernière fois, essayé de comprendre le point de vue de la personne humaine. Alors, je reviens encore un peu sur cette question de la personne humaine. Je vous avais dit qu'on aborderait ensuite le problème du dépassement de la personne humaine, parce qu'il faut le voir. Alors, on va revenir sur le problème de la personne humaine, parce que je crois que c'est important. Je vous avais montré comment le problème de la personne humaine au point de vue philosophique, au point de vue métaphysique, c'était le problème du comment de l'être le plus parfait que je peux expérimenter. L'être le plus parfait que je peux expérimenter, c'est ma propre personne. Ça ne conduit pas à l'orgueil, ça conduit tout simplement à constater que je suis une personne originale et que je suis très intéressant pour du métaphysique. Je suis très intéressant parce que je suis une personne et que je ne peux pas. Je suis bien obligé de reconnaître que la personne humaine a quelque chose d'ineffable, d'original, d'unique. Quelque chose de tout à fait particulier. Alors, nous avions compris que la personne impliquait autonomie par le point de vue de la substance, par le point de vue de son être, son existence individuelle. J'ai une autonomie métaphysique, ontologique en moi. J'ai ensuite compris, en comprenant toute la métaphysique de l'acte et de la puissance, comment mon esprit recherche l'amour. Je suis fait pour aimer et me dépasser, pour chercher mon bien au-delà de moi. Et comment l'intelligence est gardienne de l'amour. Et comment l'intelligence va me... étant gardienne de l'amour, l'intelligence va me donner une sécurité. Très curieux, c'est l'intelligence qui lutte contre l'angoisse. Je crois que toujours le préciser, déterminer ce qui doit être pour moi mon orientation et la réalité vient diminuer. Alors que le manque de détermination laisse la possibilité d'angoisse. C'est pour ça qu'il y a les trois notes qui sont très importantes à bien saisir, hein, les trois grandes orientations de ce que c'est que la personne au point de vue métaphysique. Comprendre l'autonomie, le point de vue de la finalité, donc le dépassement de l'homme par rapport au bien. Il s'agit d'un bien créé une autre personne humaine, ou qu'il s'agisse d'un bien incréé, transcendant Dieu, et puis le problème de la vérité. Il n'y a pas de personne humaine sans une recherche de la vérité. C'est terrible, parce que là, on dirait qu'il n'y a plus beaucoup de personnes humaines. C'est vrai, aimer encore, ça va encore vrai, l'autonomie, ça va à peu près, mais la recherche de la vérité, c'est ce qu'on voit le moins. Et pourtant, il ne peut pas y avoir de personne humaine vraie, parfaitement consciente comme personne humaine, s'il n'y a pas une recherche de la vérité. Parce que s'il n'y a pas de recherche de la vérité, le point de vue profond de l'intelligence, de l'esprit en tant qu'intelligence, ne peut pas se développer au service de l'amour. Et l'amour se contamine très très vite par l'imagination. Quatrième note qu'il faut comprendre, c'est que la personne humaine implique une croissance. C'est pour ça que je reviens. Parce qu'on n'a pas assez souligné cette chose-là. Et ceci, c'est important. Ça implique une croissance. Autrement dit, ontologiquement, vous voyez, c'est tous les problèmes qui ont été discutés récemment avec tous les problèmes de l'avortement. Et on a dit beaucoup de bêtises là-dessus, parce qu'on n'a pas réfléchi suffisamment sur cette distinction entre le point de vue ontologique et le point de vue des soins. Alors c'était élémentaire. On a dit, petit embryon, mais non, c'est possible, c'est une personne. Une personne humaine, elle est consciente. Mais il y a une personne au niveau ontologique. Avant d'être conscient, mais nous existions, du moins je crois. Nous existions avant d'être conscients. Et donc il y a un problème ontologique antérieur au problème du développement de l'esprit. Et donc il faut bien saisir que la personne humaine a des étapes différentes. Il y a une étape embryonnaire, c'est vrai, nous avons tous connu. On a oublié notre étape embryonnaire. Mais en fond, nous avons tous connu cette étape embryonnaire. Nous avons tous été dans un état de petitesse. C'est pour ça qu'on le respecte chez l'autre. Parce que nous avons tous été dans cet état embryonnaire. Donc il y a un état embryonnaire de la personne humaine. C'est un fait, ça fait partie de la personne humaine. Si la personne humaine, c'est le pons. Dans le pons, il faut respecter tout l'aspect génétique. Vous voyez ? Un principe n'implique pas de genèse. C'est encore un raisonnement pour montrer qu'il n'y a pas de principe propre de la personne. Vous voyez ? Parce que de fait, quand il s'agit d'un aspect génétique, quand il s'agit d'un principe propre, il n'y a pas d'aspect génétique. Hein. Non. C'est directement, c'est l'arbre spirituel comme principe, c'est tout. Tandis que quand il s'agit d'un pose, d'un comment, quand il s'agit d'un comment, le comment implique toujours un aspect génétique. Parce que le comment, c'est justement l'opération dans le temps. Donc si un aspect génétique, il faut essayer de saisir le développement de la personne humaine. C'est essentiel à la personne humaine. Vous ne pouvez pas saisir ce que c'est que la personne humaine si vous ne saisissez pas le développement de la personne humaine, les différentes étapes de la personne humaine. C'est là où il y a un aspect donc, génétique qui est absolument important. Il faut comprendre le premier moment de la personne humaine. Embryonnaire. Ce matin, on s'est posé la question de savoir si l'âme séparée était une personne. Maintenant, je pose la question, est-ce que l'embryon est une personne ? Non ? C'est les deux étapes extrêmes, c'est très bien, on a commencé par l'extrême, très très bien. Et maintenant je reviens au point de départ. Est-ce que l'embryon est une personne ? C'est une question métaphysique. Et c'est une question du comment, du pose de la personne humaine. C'est nécessaire pour comprendre ce que c'est qu'une personne humaine, de voir l'aspect embryonnaire. L'aspect, si vous voulez, génétique. Donc, le premier moment. Un fait. C'est un fait. Nous avons tous été dans cet état embryonnaire. Alors, est-ce que cet état embryonnaire était quelque chose qui était extrinsèque à votre personne ? Vous l'avez laissé avec le berceau. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui naissent d'un état embryonnaire avec leur berceau. Ils n'acceptent pas, ils ne se sont pas entièrement, comme disent les psychologues, ils ne se sont pas entièrement assumés. Ils ne sont pas entièrement assumés là. Ils ont laissé l'état embryonnaire avec le berceau. Non, je regarde mon enfant, c'est effrayant. Ça me rappelle trop ce que j'ai été. Et je ne veux pas être comme ça. Alors vous voyez, alors on ne veut pas regarder cet état embryonnaire. Il y a un état embryonnaire de la personne humaine. C'est l'heure. Hein. Alors on continuera tout à l'heure. Pour voir les grandes étapes. Ça nous permettra de mieux comprendre l'aspect psychologique et l'aspect métaphysique.